des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Oh, pas comme les autres.
Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors hier, les Mexicains ont dû pousser un soupir de soulagement parce qu'on sait que Donald Trump voulait serrer la vis concernant l'immigration et avec son fameux mur. Donc hier, il y a beaucoup de Mexicains, j'imagine, qui ont applaudi. Nous allons en parler avec M. Frédéric Saliba, qui est correspondant du quotidien Le Monde à Mexico. Bonjour M. Saliba.
Bonjour.
Alors, quelle était la réaction des gens au Mexique hier?
Alors écoutez, de manière générale, oui, c'est un grand soulagement du côté mexicain. Ils ont quand même passé 4 ans avec Donald Trump et surtout Biden arrive avec des signes de bon augure avec cette grande réforme migratoire qui va bénéficier aux Mexicains aux États-Unis. Et aux proches de ces Mexicains émigrés aux États-Unis qui vivent au Mexique.
Mais ça sera pas le paradis tout de suite, hein, quand même. Il y a quand même des choses à régler et ça sera pas facile non plus les négociations avec Joe Biden.
Oui, alors exactement. C'est-à-dire que, en effet, c'est de bon augure pour le Mexique. Une réforme migratoire, elle est quand même très importante. Il y a la fin de la construction de ce mur, il y a la régularisation, je vous dis, de ces Mexicains aux États-Unis. C'est très important, mais pour le gouvernement mexicain, la relation se complique. AMLO était arrivé à dompter Donald Trump.
AMLO, donc, c'est vraiment l'acronyme pour le président mexicain, là.
Oui, pardon, c'est Andrés Manuel López Obrador, et on l'appelle par ses initiales AMLO. Et en effet, il était arrivé à dompter Donald Trump en focalisant la relation bilatérale uniquement sur l'immigration.
Oui.
Il devait aider, mais c'est vrai que ça facilitait pour les deux voisins, ça facilitait la relation avec le Mexique pour AMLO, parce que ça lui donnait les coups des franches pour d'autres sujets, alors qu'avec Joe Biden, même si en effet il y a ce très très bon signe de réforme migratoire, il y a les autres sujets, et les autres sujets avec un agenda bilatéral bien plus large, bien plus complexe, et les autres sujets peuvent être beaucoup plus compliqués pour AMLO.
Et là, qu'est-ce qui arrive avec le mur? Est-ce qu'il va être démonté?
Alors, ce mur, la construction s'arrête, justement. Pour l'instant, Biden n'a pas détaillé exactement les choses. À première vue, par exemple, les forces militaires qui étaient déployées par Donald Trump devraient rester en place. Et surtout, la pression que Donald Trump avait mis sur AMLO pour qu'il envoie des forces militaires au sud du Mexique pour bloquer ces fameuses caravanes devrait rester en place, donc.
Il faut rappeler aussi qu'il y avait une portion de mur qui avait déjà été construite avant l'arrivée de Donald Trump. C'est pas le premier à parler d'un mur.
Bien sûr, ce mur existe depuis longtemps. Et puis d'ailleurs, Donald Trump n'en a pas construit énormément non plus. Il a continué d'avancer, mais il n'a pas construit énormément. Donc, normalement, les constructions devraient rester en place.
Et vous savez qu'à la grande surprise de beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de Latinos, d'Américains d'origine mexicaine ou d'origine d'autres pays d'Amérique latine qui ont voté pour Donald Trump en disant, écoutez, nous autres, nous avons respecté le processus d'immigration. Nous avons attendu, nous avons respecté le processus et on a vu des gens qui ont immigré illégalement aux États-Unis et donc c'est comme s'ils avaient passé devant nous et ces gens-là partageaient la colère de Donald Trump envers les immigrants illégaux et donc il y a beaucoup d'Américains d'origine mexicaine qui ont voté pour Donald Trump, il ne faut pas l'oublier là.
Non, c'est vrai. Alors, en majorité, quand même, les Latinos ont voté pour Biden. Il y a un vote latino, et d'ailleurs, cette réforme migratoire répond, d'ailleurs, à un petit peu à ces votes-là. Mais en effet, la société latina est divisée. Donald Trump plaisait.
Il plaisait à certains Latinos. Ben, le côté, peut-être, je sais pas, le côté viril, le côté macho, le côté un peu autoritaire. J'imagine, on aime ça chez les Mexicains, sans faire de stéréotypes, mais c'est vrai qu'il y a un côté de cet aspect-là de Donald Trump que certains Latinos pouvaient aimer.
maintenant, et puis un côté religieux, un côté populiste aussi, on peut oui. le dire, et d'ailleurs on le voit, Andrés Manuel López Obrador partageait avec Donald Trump un style en fait plus similaire qu'avec Biden. Biden est beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus froid que l'était Donald Trump, et pour AMLO par exemple, le côté populiste aussi est un élément qui le rapprochait de Donald Trump, et là on voit avec Biden par exemple que les problèmes vont être plus compliqué, plus froid. Il va notamment y avoir comme problème le problème du narcotrafic qui va se poser très rapidement.
Donc c'est loin d'être le paradis, là. C'est-à-dire que bon, sur le dossier de l'immigration, effectivement ça va s'améliorer, mais il y a d'autres dossiers où ça sera pas aussi facile, la relation entre les deux hommes.
Exactement, et le narcotrafic, il y a eu justement ce militaire Cienfuegos, ancien ministre de la Défense, qui avait été arrêté aux États-Unis puis renvoyé au Mexique exceptionnellement à la demande du Mexique, accusé de narcotrafic par Washington, qui vient le 14 janvier d'être complètement exonéré par le parquet mexicain, qui l'a blanchi, disant que l'agence antidrogue américaine, l'enquête de l'agence antidrogue américaine manquait de preuves. AMLO a même accusé la DEA, qui est cette agence antidrogue américaine, d'avoir monté l'affaire. Donc on sent qu'il y a des tensions qui sont en train de se construire, et notamment autour du narcotrafic, de la lutte commune.
Mais cela dit, s'il y a des trafiquants mexicains qui font énormément d'argent en faisant entrer de la drogue aux États-Unis, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui se droguent. En fait, le problème du point de vue des États-Unis, c'est plus la demande que l'offre.
Exactement. Alors ça, le gouvernement américain l'a reconnu, hein, c'est une responsabilité commune. La consommation est aux États-Unis, la production est au Mexique, et de l'autre côté, la production d'armes est aux États-Unis, et les morts sont du côté mexicain. Donc il y a une vraie dépendance, un vrai problème commun entre deux voisins qui existe. Cela dit, on sait très bien que une grosse partie du narcotrafic est liée à des appuis politiques, la corruption politique, on parle de narcopolitique aujourd'hui au Mexique, est fondamentale, et ça, pour les États-Unis, c'est très important d'arriver à faire baisser justement ce soutien politique qui existe au Mexique envers le narcotrafic. AMLO le promet, AMLO se dit honnête, et c'est vrai que c'est un président qui a l'air de bonne foi. Cela dit, sur le plan local, ça paraît très 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 compliqué de nettoyer un petit peu la classe politique mexicaine, et spécialement localement, qui travaille avec les narcos. Et donc il y a cette tension.
Nous avons tous regardé, bien sûr, la série Narcos sur Netflix. Et moi, je suis un grand, grand fan de Don Winslow, qui est un journaliste américain qui écrit beaucoup de romans sur le narcotrafic au Mexique et qui dépeint le Mexique comme étant une société extrêmement violente. Est-ce que la violence, elle est vraiment omniprésente, vous qui vivez là-bas?
Alors, écoutez, c'est compliqué parce qu'on ne la vit pas. Il y a que c'est quand même un pays de 127 millions d'habitants. Il y a à peu près 30 000 ou 40 000 morts chaque année, crimes justement sous les balles des narcos. C'est très important, mais il faut se calmer. Ce n'est pas un coupe-gorge. On peut tout à fait vivre. Par contre, on doit vivre en prenant en effet des précautions. Quand je pars en portage, je ne conduis pas la nuit. Enfin, il y a une série comme ça de on enquête énormément sur les gens qu'on va interviewer, par exemple.
Ah ouais.
Oui, c'est un pays violent. Il faut faire très attention, spécialement quand on travaille sur le crime organisé. Là, il y a quelque chose. Ils se tuent entre eux, hein. Il faut pas penser qu'il n'y a pas des attentats comme on peut voir en France, par exemple. Ça défouraille, c'est déjà arrivé, il y a eu des attentats dans le passé, mais ils se tuent plutôt entre eux. Cela dit, c'est quand même une hécatombe, il y a beaucoup beaucoup de morts, AMLO n'arrive pas à soigner cette hémorragie, il l'avait promis, et donc c'est vrai qu'avec Biden, il va y avoir à un moment donné un problème par rapport au fait que Biden va demander des résultats. AMLO fait un petit peu pression, justement, fait pression dans cette relation que je vous disais asymétrique, où longtemps le Mexique a été l'arrière-cour des États-Unis, et l'est encore. Avec Trump, ça s'est moins senti parce que c'était focalisé sur l'immigration. Avec Biden, ça va revenir. Il va lui mettre la pression, notamment sur le narcotrafic, mais attention, aussi l'écologie, le droit du travail, l'énergie. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de thèmes de tensions qui vont arriver.
En terminant, du point de vue de la pandémie, ça va très, très mal à Mexico. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux, là.
Oui. Oui, oui, en effet. Alors, les hôpitaux, par exemple, de Mexico sont au bord de la saturation. On est à peu près à 89% d'occupation hospitalière. L'épidémie continue de monter. Il y a cette fameuse deuxième vague qui, en fait, n'en est pas vraiment une, parce que l'épidémie ne s'est jamais, en fait, arrêtée. Elle avait un petit peu ralenti. Et avec les fêtes de fin d'année, les Mexicains sont très, très... ont une fibre familiale très, très forte. Ils se sont vus à Noël. Ils se sont vus au jour de l'an. Ils se sont vus pour les rois mages. Et là, on sent justement que l'épidémie est forte, elle est à son point le plus élevé depuis le début, et les hôpitaux sont au bord de la saturation. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on misait beaucoup sur les vaccins, le gouvernement mexicain a énormément investi à négocier avec plusieurs laboratoires, dont Pfizer, ils ont commencé à vacciner, et Pfizer retarde les chargements pour un agrandissement d'une usine en Belgique, et donc les chargements n'arriveront que fin février, mi-février, pardon. Et donc oui, on est très inquiet par rapport à l'évolution de cette épidémie qui risque de faire beaucoup, beaucoup de morts, alors que le Mexique est déjà le quatrième pays au monde en nombre de morts, avec autour de 140 000 morts.
Sans tomber dans le cliché, là, mais c'est vrai que bon, les Latinos, le sang chaud, aiment la fête, aiment se rencontrer, aiment la famille, tout ça, c'est pas évident de dire à ces gens-là, à ces millions de personnes-là qui aiment faire la fiesta, restez chez vous, ne voyez pas vos frères, vos sœurs, vos parents, pas évident.
Alors, c'est pas évident, et puis il faut aussi voir qu'au Mexique, la moitié de la population est pauvre, et donc on ne peut pas faire ce qu'on fait d'autres pays, de confiner les habitants chez eux en les interdisant de sortir. Au Mexique, c'est impossible, on aurait des émeutes, les gens travaillent au jour le jour, 6 salariés sur 10 sont dans l'économie informelle, et donc ils ont besoin de travailler, et ça, AMLO l'a très bien compris, il n'a pas interdit les gens, simplement il a essayé de les raisonner. Et il y est arrivé d'une certaine manière. On voit beaucoup de gens qui portent des masques dans la rue. Les gens sont assez fidèles, en tout cas, aux consignes de sécurité. Le problème, c'est que ça ne suffit pas et que, en effet, le goût de la fête, le fait de se réunir, etc., a accentué. Et puis surtout dans une ville comme Mexico, 22 millions d'habitants.
Ah, c'est incroyable.
Des gens qui s'entassent dans le métro, etc. Et donc forcément, il y a des problèmes. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu un incendie à Mexico dans le métro. Et il y a aujourd'hui, par exemple, il y a encore 3 lignes de métro qui sont bloquées. Et donc les gens sont obligés de prendre des bus, par exemple. Et ça accentue encore les problèmes. Oui, en effet, le Mexique passe une étape difficile concernant le Covid-19.
Et une ville contenant 22 millions d'habitants, c'est vraiment surréel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Frédéric Saliba, et soyez prudent, merci.
Merci à vous.
Merci. Alors, M. Saliba est correspondant du quotidien Le Monde à Mexico.